Doom a décidé de faire un petit montage sympathique, 3 minutes. Si vous ne l'avez jamais vu, ça va bien vous résumer le propos. Joanne Marcotte et Denis, il y a 20 ans, rappelons-le, my God, ça passe vite. Ils ont examiné, et je cite le post de Génération Ambition, « Les tensions sociales et économiques du Québec en abordant la culture des acquis, les monopoles d'État et les intérêts corporatistes. » Tous des sujets qui ont été traités depuis 6 heures ce matin, en passant. Là. Il est juste 7h41. En 2026, c'est encore pertinent. Je vous laisse le soin d'écouter ce résumé montage et par la suite, on reçoit ici Joanne Marcotte et Héloïse Coulombe.
Critiquer ce modèle québécois, c'est présenter comme étant rétrograde. C'est vouloir revenir en arrière. C'est vouloir revenir sur nos pas.
C'est que le modèle québécois est devenu justement une arme pour les forces du statu quo, c'est-à-dire les syndicats, les groupes sociaux de toutes sortes et les forces anti-marché dans la société québécoise.
On se bloque tout ce qui est anglo-saxon. On se bloque tout ce qui vient d'ailleurs, sous prétexte que ce serait néolibéral et que notre irréductible village social-démocrate fait donc mieux. Puis, en bout de ligne, on vient qu'à se couper un nombre d'opportunités assez incroyables.
Et donc, il y a plein de gens qui profitent du régime tel qu'il est et qui peuvent se dire, pourquoi changer les choses si je deviens perdant? C'est vrai de tous ceux qui se sont développés au sein de la fonction publique, et dans le cadre de la croissance de l'État, tous ceux qui ont profité des largesses de la Révolution tranquille, notamment le monde syndical, qui s'est vraiment façonné autour de ça.
Le slogan syndical n'est-il pas
solidarité? En fait, la solidarité québécoise, c'est la plus grande fumisterie qu'on entretient ici.
Également, quand on parle de solidarité, c'est pas la solidarité individuelle, c'est la solidarité étatique, c'est-à-dire la capacité des politiciens de faire des choix pour nous autres.
Grosso modo, le système qu'on connaît au Québec, c'est ce que j'appelle, moi, la superposition de deux grands monopoles, et c'est ça.
Là. Alors, regarde, c'est extraordinaire. Régent Breton, les syndicalistes, je ne sais pas trop ce qui arrive avec Régent, ça fait vraiment de mèche que je lui ai parlé. Mais bref, ça continue, là, mais je veux vraiment parler avec Joanne Marcotte qui est en ligne. Salut Joanne, comment ça va?
Ben, ça va très bien, toi, Dominique.
Ça va super bien. Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans? Et Héloïse, qui n'est pas très loin de nous, d'ailleurs. Héloïse, salut en passant.
Salut.
On fait une entrevue bi-génération. Joanne, en 20 ans, qu'est-ce qui a changé?
Bien, certains diront que ça a empiré parce qu'on est encore plus verrouillé dans le modèle québécois. Mais je souhaite une bonne année à tout le monde puis une bonne façon de commencer l'année, ce serait oui. de reconnaître l'effort que Génération Ambition a fait en réactualisant ce film-là qui date de 20 ans, imaginez-vous donc, ça n'a pas de sens. Et de venir voir ça avec des amis, avec des parents, avec des plus jeunes, parce que il va venir un temps où tout le monde devra connaître les raisons pour lesquelles on est bloqué au Québec. Tu sais, c'est bien le fun de lire les journaux, les types de journaux, puis tout, là. Mais si vous voulez vraiment savoir, en tout cas, moi, ce que ça m'a donné de faire ce film-là, si vous voulez savoir vraiment c'est quoi les sources de notre immobilisme au Québec, là, tu sais, je pense que c'est une bonne façon de le faire en écoutant ce documentaire-là, là. Puis, je remercie beaucoup Génération Ambition d'avoir fait ça parce que ben ça change pas. Puis il faut le réaliser là, puis on est capable au Québec là, de se prendre en main puis de voir, puis moi j'ai espoir que cette génération là va prendre sur elle de faire un clean up, méga clean up dans le modèle québécois, puis ben bravo. Et moi j'y serai en tout cas à la date où ils vont diffuser ça là, puis merci beaucoup.
Le 13 février, assurément. Héloïse Coulombe, de bons mots pour toi. Et Joey, Génération Ambition, ta réaction quand tu as écouté la première mouture, parce que là, on dit que tu l'as rafraîchi, et effectivement, les acteurs ont changé, mais c'est le même récit. C'est un peu ça, dans le fond, qu'on peut le décrire, Héloïse?
Bien, c'est ça, c'est super intéressant. En fait, le documentaire, au complet, aborde des thèmes, en fait, qu'on peut aborder aujourd'hui au Québec. Donc, on parle beaucoup d'iniquité intergénérationnelle, de la question des syndicats, de l'économie, de la dette, de la société québécoise au sens large. Il y a beaucoup de critiques du modèle québécois, d'où est-ce qu'on se dirige et tout ça. Puis, c'est des critiques ou des thèmes qui sont très abordables encore une fois aujourd'hui, puis très abordés aussi par beaucoup d'acteurs de notre époque. Donc, on trouve ça très, très intéressant à ce moment-là de voir que le documentaire, il y a quand même 20 ans, mais il est encore d'actualité.
Il y a 20 ans, tu avais quel âge?
Il y a 20 ans, j'avais 2 ans.
Est-ce qu'il y a un intervenant, Héloïse, là-dedans? Puis je vais poser la question par la suite à Joanne. Est-ce qu'il y a un intervenant là-dedans qui nous donne l'impression qu'il a accordé l'entrevue en 2025?
Je dirais que c'est plutôt un groupe d'intervenants. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait du documentaire, c'est qu'elle donnait la place à des groupes d'individus très différents. Et les intervenants que j'ai vraiment retenus, c'est les groupes de jeunes de 20 à 30 ans là, qui parlaient. Et j'ai l'impression que leur discours est encore bon aujourd'hui. En fait, ils auraient pu parler aujourd'hui. Ils critiquent beaucoup, entre autres, le fait de nier les problèmes en les pelletant toujours vers l'avant en disant que les autres générations vont bien trouver un moyen de les gérer convenablement. Puis c'est une grande critique de ça qui est faite dans le documentaire. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le fait encore, pelleter tout le temps les problèmes vers l'avant. J'ai l'impression qu'on le fait avec le réseau de la santé, où on perd nos médecins, en éducation, où on manque de profs, avec les infrastructures qu'on laisse dépérir. On attend que ça devienne urgent avant de même s'en occuper, d'y même y penser à ces infrastructures-là. Puis, ce que j'ai trouvé super intéressant dans leur prise de parole à ces jeunes-là, c'est qu'ils disaient qu'ils s'attendaient à vivre leur vie de manière plus précaire que d'autres générations. Puis ça, c'était déjà il y a 20 ans. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est une préoccupation bien présente de ma génération, en fait. C'est une préoccupation dans le sens où on se demande même si on va avoir accès à la propriété un jour. Je connais quelques jeunes quand même qui ont décidé de ne pas mettre de côté parce qu'ils ne voient même pas le jour où ils vont pouvoir avoir la mise de fonds pour s'acheter une maison. Ils ont juste abandonné ce rêve-là. Puis au-delà de ma génération, mais il y a énormément, on en parlait un petit peu là, dans les médias dernièrement, mais il y a énormément de citoyens qui vivent aujourd'hui à environ 200 $ près. Donc, les gens n'ont pas les moyens d'avoir les mêmes rêves. Puis ça, je pense que ça montre un grand déséquilibre intergénérationnel. Puis leur discours qu'il y avait il y a 20 ans est encore d'actualité à ce niveau-là.
Joanne, si tu avais à choisir un intervenant dans ton documentaire, un intervenant qui est top pertinent, à qui tu donnes l'impression que tu as parlé en 2025, ça serait qui?
Oh mon Dieu! Je suis contente que Héloïse fasse mention du panel de jeunes parce que c'est vraiment très bon ce que les jeunes disent. On en reconnaît certains, comme Vincent Gelozo était dans ce panel-là il y a 20 ans. Puis c'est le fun de le voir aujourd'hui réussir à ce point-là, puis comprendre, puis acheter son livre, il est très, très bon. Oui. Bon, voilà la plug pour Vincent.
Oui.
Mais si tu m'obliges vraiment à choisir quelqu'un pour encore décrire quelque chose qui est d'actualité, moi, je pense que le bout le plus divertissant, mais en même temps cruellement divertissant, parce que c'est encore d'actualité, c'est Régent Breton, qui explique vraiment c'est quoi le modèle québécois. T'sais, puis là, j'emprunte son ton. Là, et c'est ça le modèle québécois. Et il le décrit comme la superposition de deux grands monopoles, le monopole de l'État sur la fourniture des services et le monopole syndical sur les gens qui fournissent ces services-là. Et c'est ça qui bloque. T'as une espèce d'association, de complicité entre les classes qui gouvernent et les classes qui syndiquent l'ensemble de la fourniture des services de soins.
C'est une dualité infernale. C'est un partenariat corporatiste. Et il y a des pièces de théâtre qui sont récurrentes. Ils font les fâchés. Ah, on descend dans la rue, on veut plus de salaire, puis on veut plus de conventions collectives, plus blindées, encore une fois. Il y a des ententes, ça se calme, ça revient, ça va, comme les vagues d'un océan. Mais au final, il n'y a absolument rien qui change.
Absolument. Puis ce qui bloque beaucoup aussi, puis ce qui étouffe, ce qui gêne l'innovation au Québec, c'est vraiment là, cette espèce d'emprise qu'ont les conventions collectives sur l'organisation du travail. Comment on entend des gens qui sont dans le secteur de santé présentement qui disent « Ouais, mais on peut rien faire. » T'sais, on donne des idées, mais on peut rien faire parce que c'est codé. On est une société codée dans des conventions collectives. C'est triste à mort. Parce que quand il arrive des nouvelles générations, ils veulent prendre leur place, ils veulent réorganiser un peu leur organisation du travail, puis la société, ils ont des valeurs qui leur sont propres. Puis, ben non, le Québec étouffe sous le poids de ça. Fait que je pense que ça, c'est à retenir vraiment du film, là. Ouais.
As-tu de l'espoir, Héloïse? Puis t'en as, je sais que t'as de l'énergie, tu t'investis, tu nous parles, t'as cofondé un mouvement avec Joey, mais tu vas le chercher où, ton espoir, ta drive, ton énergie, Héloïse?
Ben en fait, c'est que je sais qu'on est capable, ma génération est capable de régler des problèmes. C'est sûr que c'est des problèmes qu'elle ne devrait pas nécessairement avoir le poids de ces problèmes-là sur le dos, en fait, mais ma génération est capable de régler ces problèmes-là. On va être capable de s'en sortir, malheureusement. Malgré tous ces problèmes-là qu'on a, qui vont nous tomber dessus, j'ai confiance qu'on va être capable parce qu'on va être une génération qui, on le voit déjà, là, qui veut avoir plus de responsabilités, peut-être de rapatrier un peu cette responsabilité-là que chaque individu a, justement, pour pallier à certaines situations. On est une génération qui veut avoir d'autres solutions. On l'a vu, entre autres, avec l'augmentation du conservatisme chez les jeunes, ça fait beaucoup, beaucoup parler. On dirait que chaque entrevue que j'avais dernièrement, c'était pour parler de ça. Donc, je le vois beaucoup autour de moi. Il y a plus de jeunes qui veulent tester des solutions qui sont nouvelles, des solutions qui sont plus conservatrices peut-être. Puis je pense qu'on va avoir le courage, en fait, de tester ces solutions-là, que ce soit en santé ou dans n'importe quel domaine. En fait, je crois vraiment en la capacité de ma génération d'aller de l'avant avec quelque chose de nouveau pour tenter de pallier à des problèmes qui sont là depuis des décennies et des décennies. Même au début du documentaire, Joanne, elle l'a dit. Elle dit que ça fait 25 ans qu'elle est tannée de ce qui se passe. Puis ça fait déjà 20 ans qu'elle a dit ça. Donc, je pense qu'on va être capable de tester quelque chose de nouveau. Là. J'ai bon espoir à ce
moment-là. Joanne, est-ce qu'il y a des gens plus lucides? Est-ce que... quel est l'héritage de Réseau Liberté Québec? Dans le fond, c'est un peu ça que je te demande. Ça peut-être que ça a mué en une génération ambitieuse, plus ambitieuse, qu'on appelle génération ambition, dans le Parti conservateur d'Éric Duhaime. En quoi ce mouvement-là a évolué? Tu me parlais de Gilles Auzeau, qui est maintenant prof, établi, qui écrit des livres, qui est influent, qui est devenu une référence même, et qui est... ton point de vue par rapport à tout ça, c'est quoi? L'héritage, dans le fond, du documentaire et du mouvement que tu avais créé à l'époque avec Denis, c'est quoi?
Bien, à l'époque, ce documentaire-là est venu tout juste avant l'élection de 2007 où l'ADQ faisait élire 41 députés. T'sais. Il y avait quand même un noyau de gens qui disaient, bon, enough is enough, assez c'est assez, et il faut un changement. Donc, c'était bien parce qu'on sentait vraiment un renouveau, tu sais. Puis bon, ça s'est effrité par la suite, c'est revenu avec le Réseau Liberté Québec, cette espèce d'élan-là. Mais là est venue la Charte des valeurs qui a tout démoli ça, parce que là, on a sombré dans
l'identitaire.
Oui, exactement. Mais je trouve ça intéressant de faire remousser l'idée d'un conservatisme qui prend forme, qui s'exprime auprès des jeunes aujourd'hui, parce que de tout temps, quand on faisait des sondages à l'ADQ ou à l'IADM ou partout, même à Léger, on voit vraiment que le Québécois moyen, là, l'électeur moyen, l'électeur médian, il est plus conservateur qu'il ne le dit. Il ne l'assume pas. Mais quand tu passes des sondages, quand tu fais des sondages sur, bon, ben, êtes-vous pour la mixité de la santé au Québec? Êtes-vous pour l'introduction des fournisseurs privés quand c'est, par exemple, le portefeuille public qui paye? La réponse, c'est oui, mais c'est oui de façon très, très, très importante, tu sais. Êtes-vous pour plus de liberté de choix dans le choix des écoles de vos enfants? Donc, l'expansion des fournisseurs d'éducation dans le privé? Majoritairement, oui, on veut pas enlever ça. C'est une réussite, les écoles privées et les écoles publiques, tu sais, qui offrent des programmes, toutes sortes de programmes empruntés, d'ailleurs, du succès des écoles privées. Toutes sortes de questions comme ça font que on réalise que le Québécois, il est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup la famille au cœur de nos institutions. Ça renaît, mais très fortement. Mêlez-vous de vos affaires, l'État. Viens pas chez nous fouiller dans mes poubelles. T'sais. C'est vraiment ça qui renaît, qui qui fait voir que finalement le Québécois, s'il était honnête un peu plus avec lui-même là, lors des élections, il dirait crème, moi, regarde, c'est assez les folies du wokisme, là. C'est assez les folies de l'alarmisme climatique, là. Ça va être correct. Là, t'sais, on a d'autres problèmes à régler que ça. Là. J'achète plus ça. Moi, je veux en revenir à quelque chose qui est gérable. Ça se gère, OK, le portefeuille public. Et voici comment. T'sais. Donc, le mouvement conservateur qui est là, qui est exprimé d'ailleurs par Génération Ambition, ben moi, je pense qu'il mérite d'être entendu, d'être écouté, d'être respecté, d'être sur les plateformes publiques. Puis voilà, donc si ces jeunes-là ont espoir, c'est bien tant mieux, parce que en réalité, le défi qu'ils ont devant eux, c'est « to be the greatest generation of our time ». Il y a un livre là-dessus, « The greatest generation », c'est l'époque de mes grands-parents, moi, ou l'époque de la Première Guerre, la Deuxième Guerre, où là, il y avait des défis extraordinaires à relever. Mais là, aujourd'hui, c'est le cas, puis c'est le cas pas juste au Québec, je m'excuse de prendre du temps, mais c'est vrai partout, dans tous les pays occidentaux, voyons, au UK, en France, on est bloqué. Donc, c'est un défi énorme, puis quelqu'un qui est stimulé par le fait de relever des défis, ben crime, allez voir Génération Ambition, respectez-le, invitez-le, puis vous allez voir que il mérite vraiment d'être entendu.
Est-ce que, puis je te pose une dernière question, Joanne, puis je vais reposer la même question à Héloïse. C'est pour les changements, oui, faut libérer la parole, je comprends, par différents vecteurs. Il y a la radio maintenant, ben ça explose, les podcasts, oui. Et le web est là, assurément, puis plus actif et plus vigoureux qu'avant. Est-ce qu'Éric Duhaime demeure la planche de salut pour des changements? Est-ce que tu reconnais dans le parti d'Éric Duhaime un peu un genre d'ADQ 2.0? Est-ce qu'il a le bon ton, la bonne formule? Ce qui m'encourage, quand on parle des jeunes, j'ai regardé le dernier sondage, là, les gens ont beau dire « Ouais, mais il tire à 15 %. » Mais moi, j'ai regardé la cohorte des 18-34 dans le... Mettons 18-30, dans le dernier léger. Il est à 5 points du PQ. Le PCQ est deuxième à 5 points du PQ. Tu sais, à quelque part, c'est vrai que les jeunes allument plus qu'avant sur ces valeurs-là conservatrices. Joanne, est-ce que ça te donne espoir? Parce que ça prend un levier de changement, puis veut pas, ça prend une élection début octobre. T'en dis quoi?
Bien, j'en dis qu'il y a eu plusieurs élections avant que Mario Dumont prenne sa place en 2007. Là. Et c'est long, bâtir un parti, lui donner une certaine crédibilité et tout ça. Puis ce sont les idées qui gagnent. Ce sont les idées de 2007 qui ont gagné les députés en 2007, là, de l'ADQ. Donc là, ça se construit, mais ça se construit vraiment tranquillement. Puis au-delà du chef, là, qui est souvent inconnu dans plusieurs régions du Québec ou méprisé intentionnellement par des médias qui sont véreux, là, ce sont les idées qui finissent par gagner. Puis il y a un temps où on réalise qu'on est dans un cul-de-sac, puis il y a comme un nouveau souffle qui s'exprime à quelque part, puis on se dit « ouais, je pense qu'on va leur donner une chance ». C'est ça qui se passe quand on fait un virage. Puis au Québec, quand on fait un virage, on le fait vraiment. Tu sais. C'est pas le banc de poisson, là, il peut être fort. Là, tu sais, il peut. Donc, regardez les idées, c'est ça qui peut donner une chance. Et aller au-delà des chefs, tu sais, moi... PSPP, je ne connais pas, là. C'est méfiez-vous aussi de la couverture que font les médias traditionnels des chefs. Ils ont beaucoup plus tendance de miser sur une campagne de chefs plutôt qu'une campagne des idées. Faudrait comme avoir un petit peu plus de maturité, là, un petit peu plus de temps-ci, là, sur focusser sur les idées au lieu de focusser sur une personnalité qui est construite de toutes pièces par des médias qui sont souvent malhonnêtes. C'est d'acquérir une certaine maturité au niveau de notre réflexion politique aussi que ça prend.
Extraordinaire. Héloïse, quoi de plus à ajouter? Je veux entendre le son de cloche de la jeunesse.
Mais c'est ça, on le dit souvent, en fait. J'ai beaucoup aimé, en fait, ce que Joanne vient de dire, de donner une chance aux idées conservatrices.
Oui.
Parce qu'on le dit souvent, justement, les gens sont... C'est pas tant qu'ils... En fait, parfois, oui, c'est qu'ils n'assument pas leurs idées, mais souvent, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont conservateurs. Donc, ils s'arrêtent à un chef qu'ils n'aiment pas, puis arrêtent d'entendre parler du parti, arrêtent d'entendre parler du programme, puis ils bouchent les oreilles à chaque fois qu'ils en entendent parler. Je pense qu'on a plus le luxe de pouvoir se permettre de faire ça. Je pense que quand on voit la CAQ perdre de plus en plus d'intentions de vote, tu pensais même pas avoir de députés, là. Je pense que ça prouve quand même que les gens veulent quelque chose d'autre. Là, après, ils se dirigent vers le PQ. Peut-être d'ici les élections, ils vont avoir le temps puis l'énergie. Ils vont prendre le temps, en réalité, de s'intéresser aux idées conservatrices. Je pense qu'on est capable de faire valoir ces idées-là. Pour que les gens nous connaissent mieux, en fait, qu'il y ait moins de préjugés envers les conservateurs et qu'on soit mieux compris.
Oui, parce que les conservateurs, il y a le Parti conservateur, mais les Québécois sont conservateurs. Ils le sont.
Absolument.
Et c'est un vent frais. Faites-vous plaisir le 13 février. Allez le voir. Vous allez être réconcilié avec vous-même et quand vous allez retourner à votre voiture dans le stationnement, vous allez dire « Oh my God, je ne suis pas seul ». Il faut briser l'isolement aussi, recouvrir un sentiment de communauté. On est plus nombreux qu'on pense à être, entre guillemets, normaux. Ça fait un peu arrogant à dire, là, mais c'est ça pareil, d'être normaux. C'est-à-dire d'être apte à critiquer une situation qui est amplement critiquable, à critiquer une dérive, à faire des constats évidents. Puis faites-le aussi à la mémoire de Régent Breton, c'est quelqu'un de sa famille qui vient de m'envoyer une nouvelle que je ne connaissais pas, Régent, qui nous a quittés le 25 novembre dernier. Faites-le à sa mémoire également. Dans le texte funéraire, c'est écrit « Régent était un être énigmatique, blagueur, sensible et spontané. Il adorait son village de Saint-Michel-de-Bellechasse et les gens qui l'ont façonné. Il était particulièrement admiratif des villages et tout. » Puis il parle évidemment dans le texte de la contribution qu'il a eue à la radio et à la télé. Également, il a reçu l'aide médicale à mourir et s'est éteint sereinement. Alors voilà, faites-le aussi un peu à la mémoire de Régent qui était un combattant à sa manière, avec un verbe de feu. Tout comme toi, Joanne, t'es la bienvenue quand tu veux, quand t'en as envie.
Merci.
Puis garde ton élan, garde ta verve, garde ton énergie. Puis on t'aime comme ça. Puis salutations à Héloïse aussi. Et on répète l'invitation. Donc, c'est le 13 février, 19h. C'est un vendredi. C'est une belle gang. Donc, allez vous réunir à la scène Le Bourgneuf. Et c'est 10$ pour les membres de Génération Ambition et 15$ pour les non-membres. Merci à vous deux.
Bien, merci à vous. Merci à toi d'en faire la pub. C'est bien, bien, bien gentil. Puis on vous attend en grand nombre. Moi, j'y serai. Génération Ambition, il sera évidemment. Puis, on va se reconnaître là, les amis.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Bye-bye.
Bye-bye.